Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti. Dit aux deux garçons qu'elle était voir le jeune homme. Les jours passent. Tous les jours, le matin, avant que le garçon ne se lève, elle va voir le jeune homme et en début d'après-midi, au lieu de aller se reposer dans sa chambre, elle y va. Elle a pitié de lui. Le trouve aussi très beau. Il parle de choses et d'autres. Elle lui apporte des livres. Pour lui, ses visites sont très importantes. Plus que pour elle. C'est normal, parce que lui ne peut sortir et que c'est sa seule visite. Pour elle, ce n'est pas la même chose, parce qu'elle a sa vie. Lui, plus il voit la jeune fille, plus il l'aime. La nuit, il rêve d'elle. La journée, il l'attend. Pense constamment à elle. Lorsqu'il est près d'elle, il n'ose rien lui dire, mais son visage parle pour lui. Elle fait celle qui ne se rend compte de rien. Cela l'énerve et se dit, elle vient me voir parce qu'elle a pitié de moi. Elle sait ce qu'il ressent pour elle. Mais elle ne l'ose pas. Lui dire quoi que ce soit, de peur de lui faire de la peine. Elle ne lui dit rien. Et elle ne dit rien à Gilbert. Gilbert la trouve bizarre, pensive. Il lui demande, en se promenant sur la plage, « Tu es fatigué ?» Et lui dit, « Non, pourquoi me demandes-tu ça ? Parce que je te trouve bizarre, lasse, triste. » Elle lui dit, « Non, je me repose, je me détends. » « Les jours passent. François est de plus en plus amoureux de Nathalie, mais souffre d'avoir un physique comme ça. Il se dit qu'il ne pourra jamais être un homme, et jamais une femme ne le voudra. Que les autres femmes ne le veuillent pas, cela ne l'ennuie pas, mais elle. De temps en temps, il lui offre des petits cadeaux, un livre, une broche, des fleurs. Elle n'ose pas refuser, mais cache ses cadeaux au garçon de peur des jalousies. Elle accepte ses cadeaux pour ne pas vexer, et aussi parce que ça la touche beaucoup. Les garçons ne se rendent compte de rien. Ils sont pris par leur pêche en bateau, leur course sur la plage. Ils disent qu'il faut en profiter à fond. Le ciel est bleu, la mer est douce. Ils sont constamment, du matin au soir, en maillot de bain sur la plage. Ils sont redevenus des gosses. Ils ne se rendent pas compte que Nathalie reste à l'écart de leur jeu. Elle est préoccupée pour François et a peur de lui faire du mal. Les jours passent. Matin, Nathalie va à la maison de François. Elle entre comme d'habitude. Et surprise, elle tombe dans le couloir sur une vieille femme à cheveux blancs, robe noire, l'air tout doux. Nathalie lui dit « Excusez-moi ». La femme lui dit « Je suis la grand-mère de François, il m'a parlé de vous ». Elle lui dit « Je suis Nathalie Poncet, je suis en vacances dans la maison à côté ». De chez vous. La grand-mère lui dit, je sais. Je suis vous remercie de venir voir mon petit François. Il vit bien seul. La vie n'est pas facile pour lui. Toujours dans cette maison, avec moi. Nathalie lui demande, et ses parents? La grand-mère lui dit, il ne vous l'a pas dit. Ils sont morts dans l'accident. Sous ses yeux. C'était peut-être de sa faute. Il a fait une mauvaise manœuvre qui a retourné le bateau en cassant le mât et est tombé sur eux. Un jour de grande rafale. Il en rêve tous les soirs. Nathalie ne sait que dire. La grand-mère lui dit, je suis la mère de son père. Mon fils unique, pour moi c'est dur d'avoir près de moi mon petit-fils qui est responsable de la mort de mon fils. Nathalie lui dit, faut pas penser à ça, c'est un accident. La grand-mère lui dit, oui, mais provoqué par une dispute violente entre le père et le fils. Le fils se disputait violemment avec son père. Parce qu'il avait de mauvaises fréquentations et que son père lui refusait de lui donner une somme importante que le fils voulait pour partir faire un voyage. Alors, de colère, il a lâché le gouvernail et la voile qui l'a fait tourner du côté de ses parents qu'ils ont reçus en plein sur eux ils ont fait tomber à l'eau. Le navire, en même temps, a chaviré en faisant tomber le mât sur les jambes de François. Il faisait un vent terrible et la mer était très houleuse. Le navire les a vus chavirer. Il est allé les secourir. Il a pu récupérer François qui était accroché à la coque. Mais ses parents, non. Depuis, ils s'accusent de tout ça. Ils refusent de voir quiconque. Moi, chaque fois que je le vois, je peux m'empêcher de penser qu'il souffre et en même temps qu'il est la cause de la mort de mon fils. Pourtant, je l'aime, mon petit-fils. Mais il a tué mon fils. Il dit, il faut pardonner. Elle lui dit, j'essaye. Et c'est pourquoi je suis heureuse que vous veniez le voir. Je lui fais une compagnie à ce petit. Il souffre, lui aussi. Nathalie lui dit, il faut qu'il oublie, lui aussi. Quant à moi, je ne peux pas grand-chose pour lui. Je ne suis que de passage ici, et j'ai ma vie. Je peux lui donner qu'un peu de compagnie. Elle lui dit, c'est déjà beaucoup. Nathalie lui dit, ça peut être dangereux. La grand-mère lui dit, le malheur a déjà frappé notre famille. Allez le voir. Nathalie quitte la grand-mère pour aller voir François. Les jours passent. Le temps passe et on ne s'en rend pas compte. Un soir, dans la salle à manger, Gilbert leur dit, vous savez que nous partons dans 2 jours ? Il le regarde. Gilbert dit, eh oui, le temps passe vite. Nathalie est ennuyée et se demande comment elle va annoncer son départ. Elle a peur de faire mal à François. Elle décide de le lui dire qu'à la dernière minute. Les 2 derniers jours, les garçons en profitent à fond. Ils sont constamment sur la plage ou en bateau. Dans leur joie, ils ne voient pas la tristesse de Nathalie. Ce sont de vrais gosses. Le dernier jour est arrivé. La veille au soir, on a préparé les valises, nettoyé la maison. Le matin, Nathalie prend son courage à 2 mains et va voir François. La grand-mère lui a donné la permission d'entrer dans la maison comme d'habitude. Il ne trouve pas la grand-mère, monte jusqu'à la chambre de chez François. Et toujours sur le balcon, elle va vers lui. et lui dit « T'as une jolie robe ce matin ?» Elle s'approche et lui dit « Oui, je dois alors te dire au revoir, parce que je pars ce matin. » Il devient tout pâle. « Tu pars ?»« Oui. » Oui, je pars. La gorge serrée. Nous ne reverrons qu'un. Elle lui dit, je ne reviendrai pas. Pourquoi dis-tu ça? Est-ce que c'est vrai? C'est pas possible, tu reviendras. J'en suis sûr. Elle lui dit, ne dis pas ça. Je ne veux pas te mentir. Je ne reviendrai pas. Tu comprends? Il a les larmes aux yeux et lui dit, c'est une farce? Elle lui dit, non François. Faut te dire que je ne reviendrai plus. Et pensez à moi comme un beau souvenir. Il lui dit, tu peux pas le laisser comme ça. Elle lui dit, j'ai ma vie. Et moi, je veux pas partir de ta vie. Elle lui dit, c'est pas possible. Il a la gorge serrée. Tu t'es moqué de moi. Elle lui dit, non. Non. Non, je n'ai rien fait. J'ai pas voulu te faire du mal. Il lui dit, tu ne m'aimes pas? Il ne répond pas. Il lui dit, je comprends. Pour toi, je suis qu'un pauvre paralysé, un infirme. Il lui dit, surtout pas, ne pense pas à ça. Il lui dit, eh bien. Il soupire, il regarde la mer. Elle lui dit, ne sois pas fâché. En regardant la mer, il lui dit, de toute façon, c'est toujours ce qui m'arrive. Tu as raison de ne pas m'aimer. Tu ne peux pas aimer un corps ni une âme comme moi. Il regarde bien, lui dit, va-t'en. Elle a les larmes aux yeux, se retourne et le quitte. Elle a entendu un grand bruit et se retourne et fait. La chaise est vide. Elle se précipite vers le balcon. Et voit François à terre, dans le jardin, couché sur le ventre, les bras et les jambes en croix. Elle se met à crier. Oh, au secours! Au secours! Oh. Courant de la chambre. Tombe sur la grand-mère et demande « Que se passe-t-il » Nathalie lui dit « Il s'est jeté par la fenêtre !» Les deux femmes descendent en vitesse et courent jusqu'au jardin. Deux garçons accourent aussi. Gilbert dit « Je vais appeler les pompiers !» La grand-mère se penche sur son petit-fils et dit, il est mort. pompiers sont arrivés, ont emmené le corps. Gilbert décide de rester un peu à cause de ce drame. Nathalie reste frustrée et pense qu'elle l'a tué. Gilbert la voit, lui demande. Tu as vu se tuer ? Elle fait vue de la tête. Nathalie reste dans le jardin et regarde la maison d'en face, assise sur une chaise. La grand-mère qui a puté d'elle et qui est une femme forte va la voir. Elle va dans son jardin, s'approche d'elle, se penche, lui prend la main. Nathalie lui dit, il s'est suicidé, c'est à cause de moi. J'ai été ignoble. J'aurais pas dû aller le voir. La grand-mère lui dit, non Nathalie, vous n'y êtes pour rien. Il s'est inventé une histoire dans sa tête. Qu'il vous aimait, comme tous les garçons solitaires. Vous ne devez pas en aucun cas vous sentir coupable. Vous avez été très douce avec lui. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour lui. Que vouliez-vous? Il était malade. Lui aussi se sentait coupable. Ce qu'il a fait, il aurait peut-être fait sans vous. Elle l'embrasse. Elle lui dit, il vous faut partir maintenant. Et ne plus revenir. Partez le plus tôt possible. Et oubliez tout. Les souvenirs, c'est pour moi. Mais moi, je suis plus coupable que vous. Parce que je lui ai peut-être fait comprendre que je le tenais pour responsable de la mort de son père. Allez, oubliez tout. Elle l'embrasse et la quitte. Gilbert sort de la maison et va vers elle. Il se penche. Elle recule malgré elle et sent un froid, comme s'il y avait entre eux le jeune homme. Et malgré elle, comme les gens bêtes, elle le rend responsable du drame. Elle le rend responsable, comme le font certains imbéciles qui rendent responsable une personne d'un drame dont il n'était même pas au courant et n'ont en rien participé. Comme cela, ces gens-là se sentent moins ou plus du tout responsables, en donnant la responsabilité à une autre tierce. Personne, même tierce personne, innocente de tout. Gilbert lui dit, tu vas mieux? Elle lui fait, oui, et toi, tu es bien? Nous pouvons partir demain matin, si tu veux. Elle lui fait, si tu veux. Il l'embrasse sous la joue, et se laisse faire, sans entrain. sont partis le lendemain matin. En roulant, Gilbert dit « C'était de bonnes vacances, hein ?» Et regarde Nathalie, lui dit « Bien sûr, il y a eu l'accident du jeune homme, le pauvre, s'est suicidé. Pourquoi ?» Il vient, lui dit « Le cafard ?» Nathalie dit « Oui, le cafard. » Et il roule. Et personne, plus personne ne reparle de François. Seule Nathalie y pense. Ils arrivent à Paris, un Paris triste, sombre. Les rues sont défoncées, les voitures incendiées, tout semble mort, la ville est morte. Gilbert accompagne Nathalie jusqu'à chez elle, il est 21h. Qu'elle ne sorte, il lui demande « À demain ?» Elle lui dit « Je ne sais pas, je me sens un peu fatiguée. » Et elle sort de voiture. Julien dit à Gilbert « Ses filles, elles boudent toujours. » Et Gilbert leur accompagne chez lui. Paris est en grève générale. Il y a des manifestations qui se terminent en émeutes sanglantes, avec des agressions, de vols, de viols, insultes, etc. Après ces violentes émeutes qui font des actes de barbarie, y a des manifestations contre les émeutiers, contre la violence, le crime, le viol, pour la paix, les droits de l'homme. Ces manifestants sont faites, ces manifestations sont faites par des associations humanitaires de partis soi-disant de gauche, des étudiants et, bien entendu, surtout ceux qui ont participé à la violence. Ils sont en tête des manifestations qui crient plus fort que les autres, qui sont contre la violence, bien sûr. Donc, tout le monde manifeste contre la violence, même les agresseurs. C'est devenu une mode. Les agresseurs manifestent contre l'agression, les casseurs contre la casse. Comme ça, ils ne risquent pas d'être punis ou de payer leur forfait. Ce sont les mêmes qui agressent, qui manifestent contre l'agression pour éviter des coups de bâton. Voyez les photos de manifestations dans les journaux et vous comprendrez. La démocratie n'existe plus. Une grande partie de la France dit non à l'Europe. Si on était démocrate, on devrait arrêter l'Europe. Les gens ont dit non en n'allant pas voter à plus de 50% et non en votant pour des partis qui sont contre l'Europe. Ce qui fait 80% des gens qui disent non à l'Europe. Des gens qui sont sur les listes électorales. Les politiques, la politique, les politiques qui font de la politique que pour leur carrière et pour plaire aux militants de base idiots, pour avoir la main mise sur les affaires, l'argent, pouvoir. Ils sont devenus mafieux. Un mafieux qui a l'armée, la police, les lois, tout.
Je jure de ne jamais me séparer de l'Assemblée nationale et de me réunir à elle, partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit affermée sur des fondements inébranlables.
Tous les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous dégorger. Oh. Une ressource nous reste.
Les droits de l'homme sont de moins en moins humains et de plus en plus militants politiques. Les droits de l'homme 1789 sont pour tous les hommes tels qu'ils soient, même français. Malheureusement, au nom des droits de l'homme, on nous fait chanter
une fausse force à être
anti-français. L'humanitaire,
si
c'est n'importe quoi.
Le rouge et le bleu.
On veut la guerre.
La ville de Paris.
On la demande. Oui, au nom des droits de l'homme. La guerre se fait. Ceux-mêmes qui voulaient la guerre sont contre la guerre et disent la guerre est horrible.
Vive le roi !
La bombe détruit. C'est des morts.
Elle a les yeux rouges.
C'est des blessés. C'est effroyable.
Mais
on ne fait pas la guerre. Une guerre propre, sans bombes, sans morts, sans blessés, sans réfugiés. Une fois que la guerre est finie, on pleure les soldats qui étaient nos ennemis.
De ne jamais me séparer de l'Assemblée nationale.
On fait
partout où les circonstances l'exigeront.
Reconstruire leur pays
jusqu'à ce que la constitution du royaume
et penser les blessés
sur des fondements inébranlables.
Ce qui fait que le vainqueur
suisse et allemand
fait la guerre
sortiront du champ de Mars pour nous dégorger. Oh. Une ressource nous reste, c'est de courir aux armes. Oh.
Parce que les défenseurs des droits de l'homme leur disaient deviennent des méchants.
Tous les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous dégorger. Oh. Une ressource nous reste, c'est de courir aux armes. Oh.
Qui est-ce ?
C'est Camille Desmoulins.
Ceux qui ont fait la guerre sont obligés de reconstruire ce qu'ils ont démoli.
J'ai l'honneur d'offrir à votre
contribuable
majesté
une bonne poire
des Français.
Parce qu'il paye pour faire la guerre et la reconstruction du pays auquel il a payé pour faire la guerre.
De la ville de Paris. Oui, je remarque.
Ce qui fait que le vainqueur se ruine et le vaincu s'enrichit. Alors pourquoi faire la guerre ? De toute façon, les athélos qui disent qu'il faut la faire ne la font pas.
Elle a les yeux rouges.
Le roi, lui, il s'en fout.
Ouais. Mais moi, je voudrais aussi.
Que voudriez-vous ?
Du pain ?
Patience.
J'ai faim.
Nous arrivons.
Je jure de ne jamais me séparer de l'Assemblée nationale et de me réunir à elle, partout où les circonstances l'exigeront,
jusqu'à ce que l'homme pense du royaume et qu'à force de penser, il agit d'une façon illogique,
inébranlable,
et que toutes nos bonnes idées, attention, se lient contre nous, contre les droits de l'homme. Il faudrait relire, et bien relire, mais d'une façon qui ne soit pas intello, ni politique, ni religieuse, mais humaine. Car les droits de l'homme sont pour tous les humains, quels qu'ils soient. Les vrais droits de l'homme, ceux de 1789.
J'ai l'honneur d'offrir à votre majesté le signe distinctif des Français. Sire, vous remarquerez le rouge et le bleu de la ville de Paris. Oui.
Il y a de plus en plus d'émeutes, de révolutions, de violences de toutes sortes en France et à Paris. Ceci inquiète le gouvernement et Maurice, car il faut protéger les bâtiments qui sont en construction, la rénovation de Paris et des autres villes. Ces immeubles de grand luxe qui ont coûté très cher à la fabrication et qui seront vendus très cher ne doivent pas être détériorés par les émeutiers. Ce qui serait la ruine du groupe. Maurice en est conscient et demande au ministre de l'Intérieur de l'aider et de l'armée aussi. La police, l'armée est renforcée dans Paris et dans les villes. Sont en état de rénovation. Elle garde surtout les chantiers, les nouveaux immeubles, mais aussi les magasins de luxe et usines. De voir plus d'armées, de policiers, cela excite encore plus les émeutiers. Ça les énerve parce qu'ils se disent que c'est pour eux toutes ces choses se font. Que c'est contre eux, oui, eux, les pauvres, les sans grade, eux qui n'ont rien, même pas à manger. Et en plus, on leur fait la chasse, comme s'ils étaient des bêtes féroces. On cherche à les détruire, pour les remplacer par des robots, des machines. C'est une honte. Ils voient une grande injustice et se battent encore plus. Ils veulent détruire ceux et tout ce qui symbolise ceux qui veulent leur mort. Puisqu'ils veulent les chasser de la cité, ils détruiront cette cité. Et la nuit, on se bat encore plus contre les services d'ordre. Ça fait plus de dégâts. La police, l'armée est débutée. Il faut faire quelque chose. Le président de la République, le ministre de l'Intérieur, Maurice, se réunissent pour étudier la situation à l'Élysée dans le bureau du président. République leur dit, il n'y a qu'une solution à faire, c'est de faire aider le service d'ordre par des robots. Je crois que nous en avons de très efficaces. Il regarde Maurice. Maurice lui dit, oui, le groupe Jeune Tout Pantois, qui fait partie de mon groupe, a un atelier de fabrication de robots très au point. Il pourra aider la police, piloter des avions, hélicoptères, ceux qui sont programmés pour ça. Ces robots sont d'une force considérable, 5 fois la force d'un homme adulte. Courent plus vite, voient à 180 degrés, détectent très rapidement l'ennemi, peuvent recevoir des ordres d'un centre ordinateur ou par voie. Leurs batteries atomiques ont une autonomie de 6 mois. Ils sont très résistants, mais coûtent très cher. Le président lui dit, pour ce qui est du prix, nous nous arrangeons. Nous vous payerons peut-être en batterie. Je crois que nous allons prendre quelques-uns de vos robots. L'armée passe commande de 500 robots, dont 200 pour l'aviation et les hélicoptères. La police, 200. Le groupe Jeune Tout Pantois avait déjà quelques robots de préparés. Ils commencent à les livrer et les autres les mettent en fabrication. En plus, on fabrique un corgé pour donner des ordres aux robots. Cela doit se faire très vite, car il faut arrêter les émeutiers. Une fois que tout est en place, les robots sont mélangés aux hommes. Ils leur ressemblent, sauf qu'ils sont un peu plus grands. Thank you. dans des bagarres, ils sont très efficaces et sans merci pour les émeutiers. Ils sont surpris par ces hommes qui ont une force surhumaine. Très vite, ils les repèrent par leur taille, par leur efficacité. Dès qu'ils en voient un, ils se sauvent en courant. Très vite, ils se sont aperçus que c'était des robots. Ils disent que nous attaquer, ils nous envoient des robots, les lâches. Mais ils continuent à se battre jusqu'à la fin. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.